Bonjour à tous dans ce nouvel épisode de Comparciné. Deuxième épisode déjà. Ça fait quand même pas mal d'épisodes. Ça me fait deux, hein, précisément. Donc, je vous rappelle ce que ce podcast, en fait, c'est tout simplement prendre un film et son remake ou son reboot, les comparer et déterminer quel est le meilleur. Je suis bien sûr accompagné par la charmante et pertinente Julie. Comment vas-tu, Julie, depuis la dernière fois?
Ça va bien, merci.
Waouh! Déjà, d'entrée de jeu, tu mets la barre très haut. Donc, d'abord, avant de vraiment commencer le podcast, on va lire quand même les diverses réactions qu'il y a eu par rapport au premier podcast. On a reçu tout un tas de commentaires, tout un tas de cartes postales plus originales les unes que les autres, car je vous signale que c'est donc le seul moyen de nous contacter. Donc, Madame Simone qui habite dans l'Aude et qui nous écrit bravo, super podcast, j'ai passé un très bon moment en faisant mon ménage et vous êtes vraiment super tous les deux, mais surtout GG. Donc déjà je le remercie. Hop, alors je fouille dans le sac là, hop, voilà. Ah, une autre carte postale parmi, on en a reçu 647 quand même, c'est quand même pas mal quoi. Donc une autre carte postale de Christian qui habite Béziers apparemment.
Qui est marié avec Antoinette.
Et qui nous dit, pas compris. Voilà, c'était ce commentaire.
Voilà. Tu sais Jérôme, quand on fait un podcast, oui. Il ne faudrait pas faire de private joke.
Ah bon?
Ça marche pas.
Mais si, déjà ils les connaissent. Donc, et je reprends une carte postale au fond du sac. Voilà. Alors oui, alors c'est Robert qui vient de Parmentier, je ne sais pas dans quelle région exactement ça se trouve, qui nous dit « GG, j'apprécie beaucoup ton travail, mais je trouve que les commentaires de Julie sont superflus et que franchement, elle n'a pas vraiment de raison d'être dans l'émission. » C'est étonnant, mais bon, on va arrêter là. Alors là, on n'est pas là pour juger les gens. D'accord ? Julie a aussi son importance dans l'émission.
C'est elle qui... Je suis ton faire-valoir, quoi.
Voilà, déjà, petit 1. Tu es mon Sancho Panza. Et c'est elle qui, quand même, à la fin de l'émission, nettoie les bonnettes qui ornent nos micros pour les protéger des postillons. Et tu les laves à 40, hein, je crois.
Ouais, c'est ça, oui.
Donc, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui nous amène, qui nous réunit autour de cette table, c'est-à-dire Total Recall, la version de 2012 de Len Wiseman, avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel. Alors Biel, est-ce qu'elle a un... c'est par rapport à la mécanique qu'elle a pris, je ne sais pas. Et va s'affronter Total Recall de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin. Ah, Ticotin. Oui, en fait, c'est bon, personne ne se souvient d'elle parce qu'elle a eu, enfin, je pense qu'elle a fait que ce rôle. Sharon Stone qu'on a connu
elle a
plus
fait
tard.
Que ce rôle pour... aussi.
Pardon?
Elle a fait que ce rôle.
Sharon Stone?
Mais non. Une blague, gros blague.
Ah, j'avais pas pigé. Oui, elle a fait des pubs pour les lunettes aussi. Ronnie Cox, qui joue le rôle de Coogan. Ah oui, dans la version de Len Wiseman, c'est Bryan Cranston, celui qui joue dans Breaking Bad. Et nous verrons que les deux films sont liés par un personnage. Et enfin, nous avons aussi, bien sûr, Michael Ironside, qui est...
Ironside.
Oui, mais moi, je prononce ça à la grecque. Ironside, donc qui vraiment c'est un second rôle du cinéma américain qui voilà, dès qu'il est là, tout explose. Donc nous allons comparer ces deux films. Les deux films font à peu près la même durée, c'est-à-dire 113 minutes pour Total Recall de Paul Verhoeven et 118 minutes pour la version de Len Wiseman. Il y a une version longue, on ne l'a pas vue en fait. Hein,
il me semble déjà que ça fait 5 minutes d'écart, première différence.
Bravo, c'est pour ça que Julie est là, elle a un chronomètre à la main, c'est l'expert des choses qui intéressent.
Moi j'analyse en profondeur.
Ah, mais tu as raison. Alors, pour résumer l'histoire, c'est, on va dire, c'est un gars. Hein,
Je pense qu'en introduction, tu devrais dire que ces deux films sont inspirés du livre de Philip K. Dick.
Et je te remercie de me couper la parole. Préciser
de rien, je suis là pour ça.
il fallait le dire, effectivement, c'est inspiré d'un livre de Philippe K. Dick, enfin un livre, une nouvelle, qui s'appelle Souvenir à vendre. Mais alors vraiment largement inspiré. Hein. J'ai pas lu la nouvelle, mais j'aime bien Philippe K. Dick, mais c'est des univers un peu bizarroïdes, quoi, on va dire. Il a sombré dans la folie, d'ailleurs, cet auteur. Et donc, c'est librement inspiré de ça. Or, il faut dire que cet auteur-là a inspiré pas mal de films de science-fiction. Il y a eu un film avec Keanu Reeves. Je l'ai bien prononcé là, ça va ?
Oui.
Là, je ne me rappelle plus son nom. Voilà, bon, il y avait bien sûr Blade Runner qui a été influencé, dont on s'est servi pour faire le film. C'est pas très précis. Ce que je veux dire. Il y a beaucoup des un, des eux et des deux. Voilà, enfin, bon, voilà.
Bref.
Voilà, bref.
Alors, le résumé.
Le résumé. Donc, c'est un gars qui a... Je vais résumer les deux films en même temps, hein, donc c'est un petit peu difficile. Mais vraiment, pour résumer les deux films, c'est un gars qui se trouve pas vraiment très bien dans ses baskets dans sa vie actuelle, hein, qui décide de faire appel à une société qui lui permet de vivre une sorte de rêve, mais vraiment de le mettre dans sa tête, quoi. Voilà. De faire que ce rêve devienne en fait des souvenirs.
Il se fait implanter un souvenir et la société s'appelle Recall.
Tout à fait, Julie. Alors, on ne t'entend pas encore assez, je trouve. Voilà. C'est dommage qu'on ne t'entende pas assez parce que tu dis ce truc vraiment cohérent. Donc, et le souvenir qu'il choisit, lui, qu'on lui implante, c'est d'être un agent secret. Un agent secret est lié à une sombre affaire de manipulation. On va le voir tout au long du film. Et. En fait, il va se rendre compte que sa femme était là plutôt pour le surveiller, voire ensuite le tuer, qu'il y a un complot qui se trame pour détruire une partie de la population.
Je me permets de t'interrompre parce que
tu racontes mal.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il se fait implanter le souvenir à la société Recall, et à partir de là, il y a tout qui part en cacahuète, on va dire. Et
c'est le terme cacahuète que tu voulais, voilà. Sur lequel tu voulais insister.
Et en fait, la trame du film, c'est de savoir est-ce qu'il s'est fait implanter le souvenir et est-ce qu'il est dans un monde irréel ou alors est-ce qu'il est dans la vraie vie. Et il est toujours tout le long du film en train de se demander est-ce que c'est la vraie vie, est-ce que c'est pas la vraie vie.
Non, là tu résumes, j'allais y venir justement, tu résumes le film plutôt avec Arnold Schwarzenegger. Parce que dans la version de Colin Farrell, on y joue un petit peu dessus, mais ça sombre vite fait dans l'action. Et à la fin, c'est il y a un complot et il faut qu'il soit déjoué.
Bon, voilà. Alors continue de résumer, vas-y.
Voilà. Donc, il y a un complot qui vise donc à tuer une partie de la population. Alors, les deux films sont un peu différents sur ce point-là, c'est la population sur Terre ou la population sur Mars, mais donc qui vise à la tuer et le héros et sa dulcinée vont tenter de l'empêcher et vont bien sûr y réussir. Alors, on va partir de l'œuvre de Paul Verhoeven pour raconter l'histoire et pour on va faire un petit peu différemment d'un enfant parce que c'était un petit peu brouillon. Donc là, on va vraiment suivre le déroulé de l'histoire pour vraiment comparer, essayer de faire un peu plus point par point. Dans le film de Paul Verhoeven, ainsi que celui d'ailleurs de Len Wiseman, commence par un rêve. Voilà. On ne le sait pas encore, mais donc on voit Schwarzenegger et sa belle qui sont en train de marcher sur Mars en combinaison. Et tout d'un coup, patatras, Schwarzy dévale la pente, son casque explose. Et là, dès les 10 premières secondes, la tête de Schwarzenegger explose. Alors, moi, je trouve que c'est
ses yeux sortent de ses orbites hein, et sa langue gonfle et son visage est complètement déformé.
Ouais.
Moi, je me rappelle quand j'avais vu cette image quand j'étais pec, j'étais complètement expandé. J'ai le droit d'utiliser ce mot dans le
podcast.
Ah,
mais tout à fait, ça a été mis dans le dictionnaire France-Occitane, donc
okay. Pourquoi pas. Donc ouais, j'étais vraiment impressionnée, on va dire. Et là, quand on l'a revu, en fait, ça fait vraiment rigoler, en fait, non ?
Non.
D'accord.
Pas du tout d'accord. Non, oui, ça fait... Il y a un petit côté comique, mais parce que justement, il se débat. Moi, je pense que c'est voulu. Déjà, à la base, c'était voulu parce que tout au long du film, il y a quand même une bonne humeur qui persiste, quoi. Il y a... Schwarzenegger, il fait ses punchlines. Hein, à un moment, il y a un gars qui mange. Il lui dit vraiment, tiens, lui la tienne.
Il lui
dit, pas ta tête.
Toi, t'as pas eu une tête de porte-clés.
Non.
De porte-bonheur.
C'est la Predator, ça, parce qu'on a vu, on a vu Predator et elle confond les deux films. Il y a peu de temps. Non, lui, il dit ta tête ne me revient pas, et lui, il dit tu peux parler, un truc comme ça. Quoi. Enfin, bon, il y a des punchlines, tandis que dans la version de 2012 avec Colin Farrell,
ça se veut plus sérieux.
Voilà, le personnage a l'air beaucoup plus torturé. Moi, ce qui m'a marqué d'entrée, c'est que Schwarzenegger, je trouve qu'il joue bien. Il joue un peu un gars. On voit qu'il est fort et tout ça, mais un petit peu, pas empoté, mais il se laisse un peu mener par sa femme, par le bout du nez. Tandis que Colin Farrell, lui, il joue plutôt le dépressif qui fronce les sourcils. Bon, de toute façon, hein, Colin Farrell, il est né avec les sourcils froncés. Hein. Mais c'est vrai, hein, il est tout le temps neurasthénique, on dirait.
Et pour les fans de ce podcast qui ne connaissent pas Jérôme ou qui ne l'ont jamais vu de visu, il faut savoir que c'est un peu, comment dire, il y a une certaine ressemblance avec Colin Farrell, entre toi et Colin.
Ouais, si tu veux, oui.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Mais je tiens à dire, je me fais appeler GG, mais je suis pas vraiment Colin Farrell. Hein. Voilà, c'est pas vraiment moi, quoi. Sinon, je me critiquerais par de ce. Ouh là là, ça, je le couperais, tu vois, par exemple. Enfin, bref, donc, on continue le déroulé. Donc, la première séquence de Total Recall de Paul Verhoeven, moi, je dirais que c'est une séquence forte parce que le héros meurt d'entrée de jeu. Tandis que dans la première version, je sais pas si tu te rappelles, mais
si.
Il tient la main de Jessica Biel, là, et elle est au bord de tomber, et finalement, il s'est fait capturer. C'est là qu'il se réveille. Bon, franchement, en plus, on n'y voit pas grand-chose. Moi, j'ai trouvé que, déjà, d'entrée de jeu, Paul Verhoeven, il marque un point. Pas toi ?
Si.
Merci. C'était concis, mais c'était bien. Donc, il se réveille et il a à côté sa femme. Dans la version de Verhoeven, c'est Sharon Stone. Et dans la version de Wiseman de 2012, c'est Kate Beckinsale.
Bon, moi, je critique le casting dans les deux films parce que dans le film le plus récent, les deux actrices, elles se ressemblent. Elles ont toutes les deux les cheveux longs, bruns et lisses avec une physique athlétique. Franchement, elles se ressemblent trop. Moi, je trouve qu'on les confond. T'es pas d'accord ?
Oui, mais bon,
bon dans l'autre film, il y a une blonde, une brune. Au moins, tu les confonds pas du tout. Par contre, Sharon Stone, elle a vraiment une tête à claque, je trouve, dans ce film.
Bon, c'est vrai que le film de Paul Verhoeven est plus, comment dirais-je, est plus fait pour les gens qui sont un peu neuneux et qui comprendraient pas. Il y a la blonde, la brune. Voilà, c'est plus facile, c'est plus compréhensible. C'est ça que tu essaies de nous dire.
Si tu veux.
Merci. Donc, moi, je trouve que. Alors, Kate Beckinsale, là, je trouve que franchement, elle joue bien le film. Elle a son rôle, elle le tient. Ah, c'est un peu la garce qui veut à tout prix piéger. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Par contre, donc, bon, je pense qu'elle a eu le rôle parce que le réalisateur, c'est son mari. Ils ont fait ensemble tout un tas de films. Ça y est, le nom va m'échapper maintenant avec des loups-garous. Là. Underworld. Ouais, ils ont fait toute une série de films comme ça. Donc, comme dans tous les films, le mari il filme les fesses de sa femme parce que dès le début, elle est en culotte, elle se promène en culotte. Là, ça, c'est vrai. Ils doivent avoir un contrat tous les deux ensemble. Et par contre, là, je trouve que c'est il y a un bon équilibre parce que Sharon Stone, moi, je trouve qu'elle joue bien. Tu vois ?
Ah bon ?
Ah ben oui, parce que un coup elle est fait toute gentille, un peu cruche même, et puis la seconde d'après, un petit peu plus tard dans le film, on verra qu'en fait. Tout ceci n'était qu'une couverture. Donc là, pour l'instant, je dis un point partout au niveau des actrices féminines. Moi, j'aime bien, quoi.
Mais moi, je trouve qu'il y a un gros problème, en fait, de baiser. Bon, les Américaines, déjà, bon, ils savent pas embrasser, je pense. Mais là, voilà, quand ils te font un bisou, là, franchement, t'as envie de leur mettre des claques.
Mais parce que toi, t'es pas romantique. Hein.
Ouais, bah si, justement.
Toi, tu aimes l'action et tout ça. Toi, il faut que ça défouraille. Hein. C'est ton côté un petit peu. Voilà, parce qu'il faut dire que tu as été dans le raid hein, pendant quelques années.
Ouais.
Tu as fait partie du raid. Voilà. Donc, elle aime l'action. Donc, on déroule un petit peu plus. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des attentats. Oh, voilà, déjà au niveau de la gestion des univers, dans Total Recall de Paul Verhoeven, on est plus.
Est-ce que tu peux dire le plus ancien ou le plus récent ?
D'accord. Le plus ancien, c'est Paul Verhoeven et le plus récent, c'est Len Wiseman. Et donc, je trouve que dans le plus ancien, le monde est plus crédible, même si ça fait un petit peu carton-pâte. Moi, j'ai trouvé que quand même, les paysages sur Mars et tout ça étaient relativement bien faits. Quand ils se promenaient au début, là, c'est des matte paintings et je trouve qu'ils sont vachement bien faits.
C'est quoi des matte paintings ?
C'est une plaque peinte, quoi, si tu veux. Et on glisse des personnages dessus. Voilà, c'est des
oui, moi, je trouve que c'était bien fait aussi.
Ouais, c'est, tout, les effets spéciaux, sont, on y croit, quoi. Voilà, même si ça fait un peu poupée parfois, petit, on voit vraiment que c'est du maquillage de temps en temps. Mais alors, tentons de parler que de l'univers, je trouve qu'il est plus crédible parce que il est plus simple, quoi. C'est-à-dire que la cuisine, déjà, il y a un mixeur, ils ne sont pas allés chercher des choses extraordinaires. C'est par petites touches qu'on est dans le futur. Par exemple, il y a un écran de télé qui ah, en fait oui. Un mur. Voilà, moi j'y crois à ça, le futur, je pense que ça peut être certain. Tandis que dans la nouvelle version, de suite, on nous sort les mondes... voilà,
ah oui, il y avait les voitures qui ne touchent pas le sol,
voilà,
etc.
Tout, et tout est entremêlé les uns sur les autres. Alors c'est vachement proche de... Je pense qu'ils ont voulu relier un peu les deux univers, vu que ça fait partie du même auteur au final. On est vachement proche de Blade Runner, quoi. Même les voitures se ressemblent. Voilà, on est un monde sombre où les gens les uns sont les uns sur les autres. Les cultures mélangées, il y a du russe, il y a du japonais, il y a du chinois. Il y a... voilà. Mais j'y crois beaucoup moins parce que de suite, on est dans des trucs voilà, qui, si on te le vendait, tu ne l'achèterais pas, quoi. C'est des gadgets un peu nuls, quoi. Voilà, donc moi, je pense que l'ancienne version est plus crédible en termes de futur proche ou pas proche, quoi.
Ouais, enfin, c'est rigolo quand même parce que pour eux, en fait, tous les films des années 80, il y en avait plein là où ils faisaient des anticipations sur le futur. Tu avais des voitures, c'était des vieux tacos, et tu avais juste les portières qui se levaient, tu vois comment ? Mmh. Voilà, comme ouais. Ça là. Mais je fais un... C'est pas très radiographique, mais il faut se lever comme ça.
Radiographique, c'est quand tu veux faire un radio des poumons. Hein, mais bon.
Ouais, fais un podcastique si tu veux.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Non, oui, les voitures, Jérôme, le taxi aussi. Les taxis, c'est un pauvre taco, mon pauvre.
Tu es dans l'ancienne version.
Oui.
Oui, oui, oui.
Mais t'as le robot dedans là qui fait bonjour monsieur. C'est vraiment les robots, mais.
Oui, mais on s'en rapproche. Aujourd'hui, plus en plus, il va y avoir des voitures qui se conduisent seules et tout. Mais voilà, je trouve qu'on est dans un monde, dans l'ancienne version, plus crade. Donc plus.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors que, justement, dans le scénario du nouveau, c'est la pollution qui est le problème central de la Terre, quoi. C'est pour ça que la Terre est divisée en deux parties. Mais voilà, le monde de l'ancienne version est plus crade parce que y a un côté un peu miteux. On a l'impression que voilà, la télé, par exemple, qui fait écran sur le mur, là, qu'à tout moment, elle peut s'arrêter de marcher, qu'ils vont appeler le dépanneur, quoi, si tu veux.
Ouais.
Voilà, je trouve ça beaucoup plus crédible, quoi, cette vision. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il propose à sa femme d'aller sur Mars et tout ça. On voit qu'elle n'en a pas très envie. Et il voit à ce moment-là, je crois que c'est dans le métro, une pub pour Total Recall. Donc, pour Recall, c'est pas Total, c'est Recall. Une entreprise donc, qui vous permet de vivre, de vous faire implanter des souvenirs d'aventure. Alors, il en parle à son meilleur copain. Là aussi, alors, il y a une grosse différence dans la nouvelle version. Le copain est noir et le blue du héros consiste à assembler des pièces de robots, des futurs gardes. Tandis que dans l'ancienne version, Schwarzenegger, il travaille sur un chantier et son copain, vraiment...
Il fait du marteau-piqueur avec ses gros bras.
Voilà. Et même son copain, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est un gars...
Un petit gros.
Voilà, un petit gros. Mais ça fait vraiment pote, quoi. Tandis que dans la nouvelle version, là... ils ont l'air d'employés de bureau et au final ils travaillent à la chaîne, quoi, ouais. Tous les deux. Voilà, on perd un petit peu en crédibilité, je trouve. Donc il parle à son ami d'aller chez Recall. Son ami essaye d'aller de version, ça, de le raisonner qu'il n'y aille pas, mais finalement il cède, il se présente chez Recall.
T'as oublié de dire quelque chose aussi, c'est que si Chouardi il va à son boulot en métro là où il voit l'annonce. L'autre, Colin Farrell, il va au boulot en prenant une sorte de métro qui passe par le centre de la Terre. Et à un moment donné, il y a l'apesanteur dans ce métro et il arrive au boulot comme ça. Et ouais. C'est là, je crois aussi, qu'il voit la publicité pour Recall. Non ?
Tout à fait, oui. Mais ça aussi, moi, j'ai trouvé que ça faisait vachement gadget. Je ne sais pas si c'est dans la nouvelle, mais alors, parce qu'il y a de la pollution, ils ont creusé un tunnel énorme qui va d'un bout...
De l'Angleterre à l'Australie.
Voilà. D'un côté de la Terre jusqu'à l'autre, hein, je trouve qu'il y a plus simple, quoi. Même si c'est extrêmement pollué, je sais pas moi, un mouchoir en papier, tu vois, tu te dépêches, tu cours, je sais pas, un truc. Non mais franchement, creuser un tunnel qui passe par le centre de la Terre, hein, bon, il y a un côté, c'est vrai que c'est bien fait, quoi. Quand il change d'hémisphère, on va dire, tout devient en apesanteur et tout ça, bon, c'est sympa à voir, quoi, mais on se demande pourquoi ils se sont ennuyés à creuser ce tunnel. Bon, tu as fini avec ta petite remarque ? Je peux continuer ?
Oui.
Merci. Donc, il arrive chez Ricole, et là, déjà, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que l'entreprise Ricole, dans l'ancienne version, on y croit, parce qu'il y a la secrétaire, il y a le vendeur qui essaie de le convaincre. Oui. Mais vraiment, là, on voit une grosse différence. Dans la nouvelle version, c'est un gars, là, il lui parle 5 minutes, mais ça ne fait pas...
30 secondes, tu veux dire.
Oui, mais ça ne fait pas... Voilà, ils viennent, hop, ils discutent, allez, ça y est, c'est bon, c'est parti, vous allez avoir un souvenir implanté. Tandis que de l'autre côté, il y a un peu le côté marchand de tapis, et c'est pareil, ça nous met dans le film. Et ça, c'est ce que je dirais tout au long. Moi, dans l'ancienne version, tous les personnages sont fouillés, il y a des relations entre tous les personnages, et on s'attache aux personnes, ce qui fait que ce qui va leur arriver a une importance. Tandis que dans la nouvelle version, si vraiment on s'attache à Colin Farrell, et encore, moi je trouve que le personnage n'est pas super, quoi. Donc on peut s'attacher à lui, mais ça sera un des seuls personnages qui est vraiment fouillé, quoi. Voilà. Même Jessica Biel, là, sa compagne, voilà, à un moment elle va pleurer, là, mais on croit vraiment pas au personnage. Donc il arrive chez Ricole, on le prévient, il passe tout un tas de petits tests et tout ça, et finalement, donc, il se fait implanter un souvenir et ça se passe mal. Et là aussi, c'est pareil, c'est l'affolement. Les gens de chez Ricole tentent de cacher, dans l'ancienne version, de cacher un petit peu ce qui est en train de se passer.
Il ne se fait pas implanter. Hein.
Ils disent, mais on n'a pas encore fait l'implantation, voilà. Mais ils avaient commencé le processus, quoi. Voilà. Mais on dit, oui, il a déjà des souvenirs qui rentrent en conflit, mais dont les gens de chez Ricole décident de le mettre dans un taxi et de le renvoyer chez lui. Alors, ça, je me souviens plus s'il rentre directement chez lui. Non, je crois qu'il va. Il rencontre son copain. Non, c'est ce moment-là qu'il rencontre son bien-aimé.
Quand il descend du taxi, il prend l'escalator et là, il tombe sur son copain qui est accompagné de deux autres types qui essayent de le tuer, en fait.
Voilà, tout à fait.
Ou de le tabasser, enfin, c'est pas trop, mais de toute manière, il les tue avant qu'ils aient le temps. Donc,
voilà. Et là aussi, c'était un super plan. Moi, ça m'a vachement marqué parce qu'en fait, on voit donc Schwarzenegger les dégomme tous, là, les uns après les autres. Hein. Et c'est très furtif, mais en fait, on voit Schwarzenegger, l'arme à la main, debout. Et sur un fond blanc, on voit les hommes à terre et du sang partout sur les murs. Là. C'était assez... Et on voit qu'il réalise ce qu'il vient de faire. Quoi. Donc, il rentre chez lui, tandis que dans la nouvelle version, tout se passe chez Ricole, c'est-à-dire qu'il y a une descente de police. Et Colin Farrell se révèle être un super espion ninja qui va tuer aussi une sorte de droïde. On ne sait pas si c'est vraiment des droïdes ou des hommes. Mais alors,
il
là,
tue tout le monde.
Voilà. Et là, la séquence était très longue. Quoi. Quand il dégomme les gars, là, ça dure bien 25 minutes, je crois. Hein, dans
mes souvenirs.
Non, c'est pas vrai. Mais ça dure très longtemps, quoi, en tout cas. Donc, il rentre chez lui, affolé. Il se demande ce qui se passe, pourquoi on lui en veut autant. Et c'est là qu'il tombe sur sa femme. Donc, là, pour résumer, dans les deux films, la femme va révéler son vrai visage et va tenter de le tuer. Alors là aussi, moi, je trouve que les deux s'en sortent bien. Le passage de la femme aimante à la femme qui essaie de dégommer. Moi, je trouvais que les deux actrices s'en sortaient pas mal. Bon, je sais pas ce que tu en penses.
J'ai déjà donné mon avis.
Et voilà, vous réécouterez le podcast.
J'ai déjà donné mon avis sur Sharon Stone.
Tu n'aimes pas dire deux fois les choses aux gens, ça suffit, quoi. Hein, ouais. Au bout d'un moment, il faut qu'ils se prennent en main et qu'ils appuient sur le MP3 et reviennent en arrière. Donc...
Disons qu'à partir de ce moment-là, dans le film avec Colin Farrell, là, voilà, c'est le film d'action qui commence. Là, ça n'arrête plus. Ils n'arrêtent plus, en fait, entre la femme et l'homme. Et c'est le film de baston entre la femme et l'homme pendant tout le long.
Dans la nouvelle version, tu veux dire?
Oui.
Oui, oui, tout à fait.
Ils passent leur temps à ce course-poursuite, baston. Voilà.
Exactement. Et c'est un peu au bout d'un moment. Voilà, il y a une séquence d'une sorte d'ascenseur qui se déplace aussi horizontalement. Là. Oui. Qui est très 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 longue, mais vu que on s'en fout de Colin Farrell parce que on voit pas d'autres personnages, sa petite amie là qui vient de trouver, on s'en fout aussi, donc ce qui leur arrive, c'est joli à voir, c'est pas mal fait, mais enfin tandis que dans le film de Schwarzenegger, il n'y a pas qu'un seul méchant, il y a Sharon Stone et il y a Michael Ironside, et les deux sont liés. On apprend que, je sais pas s'ils étaient mariés et femmes, mais enfin
ils étaient amants.
Voilà, ils étaient amants. Michael Ironside, là, il a vraiment... Voilà, ça lui fait pas plaisir que Sharon Stone ait été avec Schwarzenegger pendant aussi longtemps. Donc, il va y avoir la séquence où Schwarzenegger va devoir lever la sorte de GPS qu'il a dans la narine.
Et ah ouais, Colin... ça c'est pas mal ça. Moi, je me rappelle quand j'étais pas que j'avais été espanté.
Ah ben oui, oui, attends. Et alors, dans la nouvelle version avec Colin Farrell, on se veut plus réaliste, avec ses années 2000. Donc lui, il a un téléphone, une sorte de téléphone GPS implanté dans la main. Il va se le découper légèrement la peau, il va faire... Et il va s'enlever le truc qu'il avait dans la main. Bon, la version avec Schwarzenegger est bien plus drôle parce que donc déjà il doit se mettre une serviette mouillée sur la tête. Alors voir Schwarzenegger avec la serviette enroulée, un turban sur la tête, c'est un peu marrant quoi. Et ensuite il va devoir donc enlever une boule, mais je sais pas, qui doit faire au moins 8 cm de diamètre, qui doit passer par ce trou de nez. Et là aussi c'est relativement bien fait. Alors c'est des petits détails, mais on voit que là. Voilà, c'est un film d'action, on veut s'amuser, ça aurait pu être vraiment un truc qui aurait pris 3 secondes, mais voilà, on veut marquer les esprits avec une séquence un peu forte quoi. Et donc il apprend aussi, il a découvert une sorte de vidéo, on va essayer d'aller un peu plus vite, hein, où son ancien lui donc lui dit attention, en fait tu n'es pas ce que tu es actuellement, tu es moi, je ne sais pas si vous suivez, mais donc tu es un agent, un espion qui a décidé d'aider les rebelles et il faut que tu les aides. Et pour ça, pour Schwarzenegger, tu dois aller sur Mars. Et pour Colin Farrell, tu dois te rapprocher de la résistance. Donc, il va y avoir la séquence aussi fameuse où Schwarzenegger va tenter de prendre une sorte de vol pour Mars, là, où il passe un portique, où on voit un squelette, tu sais, que ça aussi est assez marrant, où il porte une tête qui, voilà, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est une sorte de masque mi-organique, mi-robotique, et le masque va légèrement déconner, et donc il va devoir la lever, ça aussi c'est une séquence qui, moi, à l'époque, m'avait marqué, quoi. Oui.
Dans la version récente, il y a un clin d'œil, justement, à cette scène-là.
Tout à fait.
Avec une femme qui passe le portique et qui est en fait qui a le physique de Schwarzenegger déguisé dans la première version et qui dit qu'il part 2 semaines.
Tout à fait.
C'est tout.
Mais ça, c'est moi qui te l'ai dit.
Pas du tout.
Si, c'est moi qui te l'ai dit. Tu utilises des informations.
Tu ne me l'as pas dit.
Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, bref.
Donc... Je l'ai appris en faisant mes propres recherches de mon côté.
La mauvaise foi, ouais. En me piquant mes notes.
Hein. Bon, on réglera ça plus tard. Je te rappelle que tu as dormi pendant les deux films.
Ce n'est absolument pas vrai.
Ouais, parce que d'accord. Monsieur veut faire des podcasts, mais il passe son temps à roupiller.
Je fais comme les psychologues, d'accord. Je fais une écoute active en fermant les yeux. Ok. Bon.
Donc... Parce qu'en fait, tu roupilles pendant les films, et après, tu pompes sur Internet pour tout débiter pendant tes podcasts.
Tout est pompé sur Wikipédia, effectivement. Oui. J'ai honte, je l'avoue, je vais arrêter les podcasts. Je me retire de la vie podcastique. Donc bon, tentons de dérouler. Donc effectivement, le masque que portait Schwarzenegger en quelque sorte a été joué par une actrice donc pour certains plans. Et cette actrice-là a été réutilisée dans la nouvelle version. Et c'est assez amusant quand même. C'est pas trop mal fait, contrairement au podcast précédent de l'histoire de la chouette qui m'avait choqué. Là voilà, il y a une petite pointe d'humour là qui était assez sympathique parce qu'en fait, donc cette femme passe le portique sans problème parce que Colin Farrell, lui, il porte un autre masque plus technologique, un petit peu plus loin. Et il va se faire lui aussi courser après, mais il va réussir à s'enfuir. Donc. Dans le film, c'est là que les deux films vont un petit peu bifurquer parce que dans l'ancienne version, tout le restant de l'action va se situer sur Mars, tandis que dans Total Recall, tout continue sur la planète Terre, soit dans l'Empire britannique, soit en Australie. Donc on arrive sur Mars et là, je dirais que la faune de Mars est assez sympa, quoi. Là, il y a des... Tout un tas, il y a un quartier un peu chaud, quoi, on va dire, une sorte de pigalle de l'espace, hein, où il y a tout un tas d'êtres mutants et tout ça. Et là, c'est pareil, quoi, on s'attache aux personnages parce qu'il y a vraiment des têtes, il y a des gens qui sont défigurés et tout ça. Il y a aussi un clin d'œil au premier film, hein, avec la femme à 3 seins.
Tu parlais du deuxième film, là ?
Des deux films.
Ah, ok.
Alors, dans la nouvelle version, il y a une femme qui montre ses trois seins. Et dans l'ancienne version aussi, c'est pareil. Enfin, c'était un clin d'œil aussi à l'ancienne version, quoi. Non, tu ne te rappelles pas de ça?
Si, si, je me rappelle très bien, bien évidemment, oui, oui.
Voilà, c'est...
Mais dans l'ancienne version, le village, là, parce qu'en fait, ça s'appelle Vénusville, la ville. C'est une ville sur Mars qui est souterraine, puisque l'air sur Mars n'est pas respirable. Donc, il y a cette ville souterraine qui est la ville la plus peuplée de Mars et qui s'appelle Vénusville. Et à l'intérieur de cette ville, il y a un café. Donc, ils se rendent dans ce café où tu vois tout un tas de personnages, en fait, qui sont des mutants parce qu'ils ont été exposés à des radiations, on imagine. Donc ça me rappelle un peu Star Wars en fait. Mmh. Voilà, c'est le bar de Star Wars en fait, avec tous les personnages, avec des tronches bizarres. Tu sais, t'as la femme médium qui est défigurée, avec sa fille aussi qui est défigurée. Tu as la femme à trois seins, tu as la petite naine. Voilà, il y en a plein comme ça, c'est rigolo parce qu'ils sont tous attachants, ils se connaissent tous.
Et celui qui dit à Schwarzenegger là, ta tête là, elle me revient pas et tout ça là.
T'as une tête de porte-bonheur ?
Non, celui qui a vraiment une balafre, une cicatrice, là, qui est un mutant, là, mais...
Oui,
mais,
oui.
Tu vois ce ouais. gars-là ? Eh ben, c'est grâce à ça que c'est relié aussi à Breaking Bad, ce film.
Ah.
Parce que dans la nouvelle version, il y a Bryan Cranston là, qui jouait le rôle, donc, titre de Breaking Bad. Et cet extraterrestre-là, en fait, ouais. c'est le beau-frère de Walt.
Ah bon ?
Ouais, c'est celui qui joue le rôle du flic, quoi, si tu veux. Eh ben, c'est cet extraterrestre, enfin, ce mutant, si tu veux, c'est ce gars-là, quoi.
Attends, le mutant du film de Schwarzy ?
Ouais. C'est ça.
C'est l'acteur du beau-frère de Breaking Bad.
C'est ça.
D'accord, ok. Okay. Ouais. On ne le reconnaissait pas. Il a changé.
non, parce qu'il s'est fait opérer depuis. Là. La balafre, là, il ne l'a pas gardée.
Ok, ok.
Voilà, donc il y a toute une faune, une population auquel on s'attache, tandis que l'autre film, le nouveau film, la nouvelle version. Alors là, les
étoiles. D'ailleurs, c'est dans ce bar-là qu'il retrouve Mélina,
c'est
la
ça,
fille.
Oui.
Voilà. Qui, enfin, on comprend que c'est une prostituée en fait. Ou une serveuse, on ne sait pas trop, mais bon, elle a sa chambre quand même juste au-dessus du bar.
Tu devrais faire plus preuve de retenue dans tes propos.
D'accord.
Tu connais pas la vie des
oui,
gens.
Oui, c'est
toi,
vrai. Après, ils n'en parlent pas. Juste, elle a sa chambre qui est juste au-dessus du bar. Voilà. Et dans le film le plus récent, alors comment c'est dans le bar ?
On n'y va pas dans le bar.
Ah, ok.
Non, non.
Si, il y a juste une tuerie dans le bar, non ?
Non, non, mais non, pas, c'est non, non. Ils partent dans la zone polluée, si tu veux. Je crois que c'est sous terre, hein. Je ne garde ouais. pas le souvenir ému, quoi, mais ils prennent une sorte de métro et ils vont rejoindre la résistance. En fait, la résistance se cache, hein. À un moment, ils traversent, ils voient à travers les... Ça m'a marqué un petit peu, ils voient la pollution sur terre. Et donc, ils vont directement dans la base de la résistance, quoi. Il y a pas de... c'est toutes ces séquences qui se passent dans le bar, dans l'ancienne version, sont remplacées par les cascades et les poursuites, quoi.
Ouais, okay.
Voilà. Je te dis, il y a
dommage parce que c'était le bon moment du film, moi je le trouve.
Ah oui, là, toute cette faune un peu interlope. Tu sais, moi, interlope.
Ça veut dire quoi ?
Je sais pas. Je trouve que ça fait pas ça. Donc, oui, parce que là encore, tu t'attaches au personnage et quand ils vont être mis en danger, même s'ils ne paraissent pas tous sympathiques, parce que par exemple, ce mutant-là qui a la grosse cicatrice en plein milieu du visage, il n'est pas très accueillant, quoi. Mais on va voir dans la suite du film que. Dès que Schwarzenegger et Mélina là, vont avoir des problèmes, ils veulent les cacher, tout ça, il y a une cohésion de groupe. Donc, ils vont dans ce bar, effectivement, ils retrouvent Mélina, son amour perdu. Là, c'est là que. Alors, attends, je relis un petit peu. Mais...
N'oublie pas de parler du chauffeur de taxi à ce stade-là.
Oui, effectivement. Alors, il y a un chauffeur de taxi dans l'ancienne version qui le rencontre, qui est un black en fait, un peu, qui a un peu de bagou et tout ça, qui va jouer un peu le sidekick, comme on dit, c'est-à-dire le personnage qui accompagne le héros, quoi, qui l'aide dans sa quête. Hein.
On croit qu'il est gentil au début, voilà. Et finalement, il le sera pas.
Ça y est, t'as spoilé, là. Et, les gens, ils sont là, ils se disaient, mais mauvais sang, ce chauffeur de taxi, c'était déjà attaché à lui. Et pam, toi, tu caches tout. Et alors, moi, ce que j'ai noté qui était intéressant, parce que ça, c'est développé dans tout le film, c'est qu'il y a des méchants. La femme, elle est méchante, elle est reliée à un autre méchant, et ce méchant est relié à encore plus méchant. Et le méchant a un sidekick aussi. C'est-à-dire que
il y a une hiérarchie chez les méchants aussi.
Oui, mais tous les personnages, ils sont méchants, mais le fait qu'il y ait un méchant un peu plus encore au-dessus de lui, d'eux, ben ça renforce leur côté méchant, je trouve. Tu vois ? Parce que Michael Ironside, il aime Sharon Stone. D'accord ?
Ouais.
Et Michael Ironside, il a un copain là, qui a des lunettes aussi, qui est méchant et qui est... voilà, qui l'aide un peu et qui va se faire tuer dans le bar d'ailleurs par la naine. Il va se faire poignarder. Mais au-dessus de lui, il y a Coagen, là, le super méchant qui est le chef de tout. Quoi. Donc voilà, et en même temps, Coagen, il ne veut pas que Schwarzenegger se fasse tuer parce qu'apparemment, ils étaient vraiment potes. Ils étaient vraiment proches tous les deux. Donc j'aime bien toutes ces relations entre les personnages, alors que dans la nouvelle version, ça n'y est pas du tout. Quoi. Bryan Cranston, là, on va l'appeler Breaking Bad, hein, le Coagen aussi. les relations avec Colin Farrell, il n'a pas vraiment eu, et de suite il change du tout au tout et il va vouloir le descendre à la première occasion, quoi.
En fait, il est beaucoup plus simpliste.
Ah, il est beaucoup, oui, parce que tout est remplacé par l'action.
Dans le scénario, voilà, c'est ça. Il y a le gentil, le méchant, il se frite et il se poursuit tout le long et basta.
Alors, il y a la scène. Alors, je crois que j'ai dit que Sharon Stone était morte, mais pas tout à fait, parce que juste avant qu'elle meure, il y a la fameuse scène où intervient une sorte de psychologue qui vient ramener à la réalité, qui essaye de ramener à la réalité Schwarzenegger ou Colin Farrell, où en fait.
Voilà. En fait, il lui fait croire qu'il est dans un rêve et qu'il faut qu'il revienne à la réalité.
Voilà,
mais le héros ne sait pas en fait si le psychologue dit la réalité, si c'est un rêve, ou alors s'il ment et qu'il est en fait dans la réalité.
C'est pas... Parce que là, tu as dit, il ne sait pas si c'est la réalité, que c'est un rêve. Ou...
C'est vrai.
Alors là, on est. Mais c'est un peu ce que sur quoi vous jouez le film, en fait. Donc, il lui dit en quelque sorte, il faut que tu tues la fille pour montrer que tu as envie de revenir dans le monde réel. Voilà, tu es coincé dans ton rêve, ton corps actuellement
est chez... C'est un délire paranoïaque.
Voilà, tu es chez Ricoll, allongé, et on essaie de te sortir de là. Alors là, attention les yeux, là c'est là où... voilà, là, jusqu'à présent, les deux films, si on n'était pas trop regardant, ils se tenaient encore un peu. Mais alors, dans la nouvelle version, pourquoi il va dire « Non, non, je reste dans ce monde-là, même si c'est un rêve, j'y crois quand même. » et qui va tuer le psychologue, c'est parce que Jessica Biel va verser une larme. Non mais c'est quoi ce bazar ? Attends, il verse une larme, et c'est bon, c'est, je reste dans ce monde, je tue le psychologue, tandis que dans l'ancienne version, Schwarzenegger s'apercevait que le psychologue transpirait et qu'il avait peur. Donc, paf, ça y est, tout est
alors qu'en fait, il avait chaud peut-être.
Ah, c'est peut-être une erreur. Ah, ça effectivement, Schwarzenegger n'y a peut-être pas pensé.
Non mais c'est une erreur du scénario, franchement. Dans un moment de stress, on peut transpirer qu'on ait raison ou qu'on ait tort.
Ah, là,
c'est idiot.
Tu sais qu'il va
dormir. On peut avoir chaud, on peut avoir froid, peut-être même qu'il était enrhumé, qu'il couvait quelque chose.
Non, mais là, il y a tous les scénaristes d'Hollywood là, qui sont en train de se dire « Ah bon, ça, mais on n'y avait pas passé et tout, là. Tu viens de mettre le doigt là où ça fait mal. » Oui. Là, il paraît qu'à Hollywood, là, tous les producteurs de films sont en train de déposer le bilan et de renoncer à faire des films. Voilà. Maintenant, il n'y aura plus que des films français. Ça va être super. Donc,
c'est OK.
Effectivement. Donc, où on en était ? Donc, bon, donc Charles Stone, elle est morte. Il y a le méchant qui poursuit toujours le gentil. Et Schwarzenegger va donc aller rencontrer le chef de la résistance qui s'appelle Quato. Alors là aussi, dans la version de Verhoeven, c'est plus charnel, quoi, on va dire, parce qu'en fait, Quato est une sorte de mutant qui en fait se situe sur le ventre d'un autre personnage. Or c'est une scène un peu grandiloquente, mi-marrante, mi-terrifiante, tandis que dans la nouvelle version, Quato, c'est Quato, quoi. C'est un gars comme vous et moi, et c'est le chef de la résistance au point final. Et c'est là qu'on va se rendre compte que, patatras, les méchants débarquent, ils tuent Quato, voilà. Et là, les méchants ont gagné, ils se font capturer. Et là, ça va commencer à partir méchant. Attention, là, je sais pas si parce que je sais plus où j'en suis. C'est pour ça que j'essaie de combler un petit peu. Donc,
fais une pause si tu sais plus où t'en es.
Non, non, je préfère rester comme ça. Tu vois, moi, j'ai pas peur. J'y vais à fond. Donc,
il fait un blanc.
Ça y est, il était beau, hein, on peut rire. Donc, ah oui, ce qu'on a oublié de dire, c'est que les gentils se font capturer par les méchants et le méchant décide de tuer la population, et ça c'est dans les deux films, c'est-à-dire que dans l'ancienne version, il va tenter d'asphyxier, on va dire, le coin des rebelles, quoi, la partie...
Vénusville.
Voilà, Vénusville. Tandis que dans la nouvelle version, il va détruire l'Australie, qui est considérée comme une colonie sans importance. Donc ça, c'est le plan du méchant.
C'est ça le plan ? Je n'avais pas compris.
Ben oui, il va se servir du vaisseau qui passe à travers la Terre, avec une armée, et il va envahir l'Australie et la détruire, quoi, si tu veux.
Ah, tu veux dire tuer les gens, pas détruire l'Australie. Tuer les gens pour pouvoir lui-même occuper l'Australie, peut-être.
Voilà, ouais.
D'accord.
Voilà.
C'est pas pareil que détruire l'Australie.
C'est un peu flou, hein, d'ailleurs. Moi, c'est peut-être à ce moment-là que je me suis un petit peu assoupi. Oui. Mais le plan du méchant dans la nouvelle version...
Mais moi, j'avais pas compris. Ah, je l'ai compris en faisant mes recherches pour le podcast.
Comme quoi,
déjà, un film où on comprend pas, c'est que ça a foiré quelque part.
Ah, ben oui. Ou qu'on est un peu bête. Donc,
ou qu'on a dormi.
On n'y revenons plus là-dessus, s'il vous plaît. Donc, ça fait au moins 800 fois que je le dis aujourd'hui. On s'est attaché à la population martienne. Donc, que la naine, elle meure, ben, ça nous fait de la peine. Tandis que dans la nouvelle version, bon, ils vont détruire l'Australie. Ben, après tout, qu'est-ce qu'il y a là-bas ?
Des requins, des scorpions, voilà. Des kangourous.
Ça faudrait que je l'aurais fait péter, tu vois. Voilà, enfin, bref.
Et crocodiles.
Et surtout qu'on est attaché à cette population de Mars, parce qu'il y a l'enfant aussi, ça a duré qu'une fraction de seconde, mais l'enfant et sa mère, on s'y est attaché. Parce qu'ils ont des visages un peu difformes. Voilà, on s'est attaché à toute cette population-là. Donc, Benny est un traître, j'ai marqué, c'est-à-dire que le taxi...
Benny, c'est le taxi.
Voilà, le taxi se révèle être un traître. Alors, les gentils réussissent à s'échapper. Ils apprennent que, en fait, sur Mars, il y a une machine. Alors ça, je dirais que c'est un peu... Ça serait dans la nouvelle version, tu vois, je dirais, ils en font trop, ils sont allés trop loin. Alors ça, je pense qu'il y a un petit côté nostalgie. Mais moi, à l'époque, hein, ça m'a fait vraiment cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un film d'action. Et en plus, tu apprends que sur Mars, il y avait des extraterrestres qui ont construit une machine. Voilà. Alors, soit on aime...
Ça... Ah, c'est ça que t'as compris, toi ?
Ah, mais c'est ça que dit le film, oui, même. C'est pas que j'ai compris.
Moi, j'ai compris que c'est les humains qui ont colonisé Mars et qui ont fabriqué cette machine, mais il y a longtemps.
Non,
et que célestes. Cette machine n'a jamais été utilisée.
Non, c'est les célestes. C'est un peuple qui aurait habité Mars avant tout le monde. Mais d'ailleurs, la main, là où il met la main...
Oui,
il
y a trois doigts.
Eh ouais. Donc, paf. Comme quoi, hein, on peut dormir en même temps, comprenant des trucs. Et pam. Donc, moi, ce moment-là... Si j'y réfléchis bien, je me dis, ah, c'est peut-être un peu trop. Mais moi, ça m'a plu, quoi. Le côté, là, il y a des extraterrestres qui ont construit une machine énorme. En plus, au début, on ne comprend pas trop à quoi ça sert et tout. Donc, c'est la poursuite pour arriver en premier à la machine. Kouagen va tenter de la détruire et Schwarzenegger va tenter de l'activer. Tandis que dans la nouvelle inversion, bon, ben, ça y est pas du tout. Hein. Il y a toute une séquence d'action où ils prennent donc le... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle la machine là, mais qui fait la chute, hein, je crois que ça s'appelle, pour aller du côté de l'Australie. Il y a une grande séquence d'action qui n'est pas trop mal faite, mais voilà, il y a de l'action, mais vu qu'on ne s'est pas attaché au personnage, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on s'en moque. Qu'est-ce que c'est qui déclenche Tony, en vérité ? Donc, c'est là qu'on apprend. Parce qu'il y a des films dans le film, du film de le film aussi. C'est un peu avant qu'ils aillent à la machine. Hein, qu'en fait, Quaid, c'est-à-dire le gentil, est un traître à lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour un gentil, alors qu'en fait, il était avec les méchants. Il s'est fait laver le cerveau pour que tout le monde le croit gentil et s'abuser à lui-même. Ça, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Ouais.
C'est compréhensible ce que je veux dire ? Bon. Voilà. Donc... Et ça, c'est dans les deux films, mais dans la version, dans l'ancienne version, c'est beaucoup plus poussé. Voilà, c'est vraiment, quand on apprend ça, on se dit, ah ben mince, alors c'est un retournement de situation auquel on ne s'attendait pas vraiment. Et tout au long du film, on joue de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeux sur est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans la fiction. Dans la nouvelle version, ça n'y est pas du tout, ça. Ça y est un petit peu, mais c'est beaucoup évacué vu qu'il y a beaucoup d'action. On ne va pas en parler, tandis que là, pendant tout le film, on se dit, est-ce que ce qui se passe à l'écran, est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. Voilà, je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on a appris que en fait, le héros, eh ben, avant, c'était pas un si gentil gars que ça, mais il décide de quand même, vu qu'il a changé de personnalité, de continuer à tenter d'aider la résistance. Donc, il y a une séquence assez sympa où il tue le méchant Michael Ironside dans un ascenseur, là, où le gars il s'est fait couper les deux bras. Là.
Oui.
Voilà.
C'est pas mal.
Ah ben ouais. Un mec qui s'est fait couper les deux bras, c'est toujours sympa.
Bah oui, attends.
Paf. Tandis que dans la nouvelle version, à la fin, il y a un combat final. Or déjà...
Il y a un homme qui se fait couper le bras à l'ascenseur de la même manière.
Ah oui ? Dans la nouvelle...
Oui, c'est un clin d'œil.
Ah bon ? Je me rappelle pas. Je devais dormir à ce moment-là.
Il n'y a pas que toi qui as des anecdotes.
C'est pas le super méchant. Non. C'est pas un type. C'est un robot qui se fait couper le bras.
Ah.
Et pam, il manquait marqué un point. Alors par contre, ce que j'ai pas trop aimé dans la nouvelle version aussi, c'est Bryan Cranston, là, celui-là qui joue le super méchant chef du comté là. Il s'est fait du karaté, quoi. Colin Farrell, là, au début du film, hein, il a bousillé une vingtaine de gars les doigts dans le nez. Et là, contre un rond de cuir, là, qui doit être préfet, ça doit être l'équivalent du préfet, hein. Et, ben, le préfet, il fait du karaté, il est champion du monde de kung-fu, il a un couteau, il sait utiliser les armes. Hein. Voilà, ça aussi, bon.
C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Souvent, les méchants, le méchant final, la bagarre, elle dure trois quarts d'heure. Alors qu'en fait, ça peut être très vite fait aussi.
Et surtout que, normalement, c'est le chef des méchants. Normalement, lui, c'est oui, pas c'est se vrai. Battre.
Oui, il n'est pas là pour se battre.
À part si il a été élu méchant parce que c'était à l'époque le non, plus méchant des méchants. Non, mais c'est vrai,
tu as raison. Quand tous les sous-fifres sont abattus...
J'aime quand tu dis ça, quand tu reconnais ma
Il devrait ma effectivement, voilà.
Par contre, il a des sbires. Voilà, quand il se bat contre, comment il s'appelle, Kate Beckinsale, là, qui a un long combat avec elle, parce qu'on voit qu'elle est hargneuse depuis le début et tout. Mais même ça, bon, ça se règle à des moments différents dans le film, parce que en fait, le personnage de Kate Beckinsale, c'est trois ou quatre méchants de l'ancienne version en un seul, quoi. Ils ont tout recentré sur elle, vu que c'était la femme à l'époque du réalisateur.
Tu l'as déjà dit.
Oui, mais j'en fais sur le coup, parce que okay. Moi, le népotisme, ça, c'est un truc qui me révèle ça. Oui, népotisme. Oui, j'ai vu que c'est favoriser ses proches, quoi. Sa famille.
Ok.
Peut-être que ça marche que pour les enfants, d'ailleurs, en fait, je sais pas. Et donc, même là, cette bataille-là, à la fin, là, ce qui se déroule dans une ambulance, qu'est-ce qu'il fait là ? Bon, il y a un peu de Krav Maga, de Kung Fu, et de Judo, et de Tai Chi Chuan, et tout ça. Dans le véhicule, hein. Mais au final, bon, il tire une bastos, elle tombe, elle meurt, quoi.
Ouais.
Bon, c'est pas tout à tellement terrible. Tandis que là, Kohagen, donc le méchant, ils vont arriver, Schwarzenegger, sa Dulcinée et Kohagen près de la machine. Et je sais plus pourquoi, il y a quelque chose qui est aspiré, quelque chose qui est cassé, ils sont tous aspirés là.
Ouais.
Il y a une vitre qui se casse, ouais. Ou. Je ne sais plus ce qui se passe à ce moment-là. En tout cas, il y a une explosion. Voilà, il y a une explosion. Et donc, tout est aspiré. Et donc, le méchant est envoyé dans l'atmosphère de Mars. Et sa tête va exploser, comme au début du film. Et juste avant d'être aspiré, Schwarzenegger réussit à déclencher la machine. Mais là aussi, c'est tension et suspense parce que
on sait bien ce qui va se passer à ce moment-là. Le méchant, il va mourir et les deux gentils, in extremis, ils vont pouvoir respirer l'atmosphère qui va jaillir grâce à la machine.
Ouais, mais parce que toi,
on le sait que ça va se passer.
Tu es super intelligent, toi tu le savais, le sixième sens, là que Bruce Willis il était mort dès le début du film. Toi tu les sens tous ces. Toutes
ah
ces...
bon
Tu savais pas.
Mais c'est un fantôme.
Oui. Depuis le début, c'était un fantôme, en fait.
Ah bon ?
Eh ben oui. Je t'expliquerai après.
Okay.
Donc, voilà. Donc, Mars est sauvé. Tout est super. Tout est génial. Le héros... Et à la fin, ça finit sur la belle qui embrasse le héros. Et paf, image blanche. Et jusqu'à la fin, elle lui dit, te rends compte, fait une phrase comme ça, est-ce que tu crois que c'est vraiment la réalité et tout. Et lui, il l'embrasse, mais on sent dans son regard qu'il a quand même un doute.
Ouais. Voilà.
Et ce doute, il a persisté tout au long du film, quoi. Parce que si tu te rappelles, et c'est là que là paf, analyse, attention. Si tu te rappelles, quand il va chez Ricol, au tout début, on lui dit, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez aller sur Mars, vous allez sauver tout le monde. Il va y avoir un ciel bleu même, effectivement, c'est ce qui se passe à la fin du film. Vous allez tomber la fille, et la fille, il la voit sur l'écran de Ricol. C'est-à-dire qu'il
ouais,
a
ouais,
choisi,
c'est la même fille. Ouais.
Je veux Bruna, machin truc, machin bidule. Donc, dans le film, du début à la fin, on ne sait jamais si ce qu'il est en train de vivre, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est un rêve. On est toujours constamment, voilà, il y a tout un tas de tiroirs. Et lui-même, il s'est trahi à lui-même, vu qu'en fait, c'était un méchant qui avait pensé qu'il fallait se faire passer pour un gentil et tout ça. Donc, sous l'apparence de la facilité d'un blockbuster où il y a plein de séquences
oui,
d'action
mais,
et tout
ça. Oui, mais Jérôme.
J'ai pas fini. Et donc, de séquences d'action, eh bien, un sous-texte, et ça, c'est dans le scénario, ça y était, mais il y a aussi l'influence de Paul Verhoeven, je pense. Il y a tout un tas de choses en sous-texte où le film, il y a beaucoup de niveaux de lecture, et donc ça fait qu'on le revoit avec plaisir, quoi, parce qu'on découvre des choses au fur et à mesure. Je peux te laisser la parole, mais je n'ai pas encore tout à fait fini, tandis que dans la nouvelle version, ça n'y est pas. Sauf, apparaît-il dans la version longue, où à la fin, toute fin, Colin Farrell regarde son bras et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles,
mais oui, je me rappelle.
Chez Ricole, on lui a fait une sorte de tatouage là, pour enfoncer l'aiguille. Et donc, il regarde son bras et il s'aperçoit qu'il n'y a pas le tatouage. Ce qui voudrait dire que il est dans un rêve vu qu'il n'est chez Ricole et dans son rêve, il n'a pas le tatouage. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ce serait tout à la fin que le réalisateur a voulu nous dire, attention, tout ceci n'était peut-être qu'un rêve et tout ça. Mais ça n'a pas la force et l'impact qu'a l'ancienne version. Maintenant que j'ai fini mon long monologue, tu peux parler.
J'ai un argument imparable pour te dire que, effectivement, ce n'est pas un rêve, mais c'est bien arrivé.
Eh bien, merci Julie, ce sera lors d'une prochaine émission. Passons à la suite. Mais vas-y, dis-le. Vas-y,
quoi. Alors, mon argument, c'est de dire que si jamais Ricole lui a implanté ce souvenir-là, il faut qu'à la fin du rêve, la situation revienne à ce qu'elle était pour qu'il puisse réintégrer sa vie normale normalement. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, non, mais...
Pour qu'il puisse retourner auprès de sa femme et reprendre le cours de sa vie normale.
Ah, pour que ce soit qu'un souvenir ?
Oui.
Oui, non, mais ils le savent que c'est un souvenir, mais c'est très présent chez eux. C'est comme un rêve, c'est ce qu'ils expliquent. C'est entre le souvenir et le rêve, déjà petite. Ça peut être entre le souvenir et le rêve, c'est-à-dire que tu sais que c'est un rêve, mais tu l'as vécu émotionnellement.
Oui, mais si tu fais ce rêve-là, t'es dégoûté de reprendre le cours de ta vie normale. Tu vas quitter ta femme si tu fais ce rêve-là.
C'est comme les vacances. Quand tu as passé des super vacances et que tu retrouves le boulot, ça c'est pendant un mois, t'as rien fait, t'es pas allé bosser, t'avais l'impression que l'argent tombait du ciel et tu reprends ta vie normale. Et bon, c'est pas pour ça que tu te dis j'aimerais être tout le temps en vacances. Moi aussi, tu te le dis, mais voilà, tu vas pas te flinguer pour ça. C'est la vie.
Tu vois si on veut.
Et en plus, il reste quand même une solution où, quand le psychologue est intervenu en lui disant vous allez avoir un souci et vous allez devenir complètement psychotique et tout ça, à la fin du film, on peut penser que Schwarzenegger est devenu psychotique et qu'il est enfermé dans son rêve en boucle. Quoi.
Ok, voilà. Ok, très bien, ça se tient, Gégé, ça se tient, bravo.
Ah, c'est pas vraiment que de moi, hein.
Non, j'imagine bien.
J'ai tout repiqué sur Wikipédia, vous pouvez le voir. Voilà, donc, on pourrait... Alors, est-ce que je relis un petit peu mes notes ? Donc oui, Total Recall donc, joue ça sur l'ambiguïté, réalité, rêve, l'ancienne version, beaucoup plus que la nouvelle. On peut dire aussi que tous les personnages sont bien développés dans l'ancienne version, tandis que dans la nouvelle, pas vraiment. Et on peut dire aussi que l'ancienne version est plus outrée, plus comique, et je dirais plus vivante. Quoi. Schwarzenegger, moi je trouve que vraiment, là dans ce film-là, c'est vraiment un bon acteur. On peut le critiquer dans certains films, c'est bon, un peu monolithique quoi, comme acteur. Mais là, moi j'y croyais, quoi. Son rôle, il est vraiment le héros. Quoi. Mais en plus, il y a ce côté-là de la vie, effectivement, il y a des morts, il y a vraiment des morts, il y a du sang sur les murs, c'est pas des machines, hein, c'est pour ça que la nouvelle version, ils ont mis des robots partout pour être classés au niveau des entrées de cinéma pour juste les moins de 13 ans ne peuvent pas aller le voir, je crois, un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà, ils ont mis des robots à la place des humains pour que ce soit pas trop violent, quoi, si tu veux. Et ouais, c'est... Pour faire plus d'entrées, ils sont obligés de faire ça. Mais voilà, l'ancienne version est beaucoup plus comique. En même temps, on s'attache plus au personnage, ce qui fait un film, là, au final, beaucoup plus vivant que la nouvelle version.
Donc toi, tu as préféré la nouvelle version, quoi.
Tu as tout compris. Et dans le sixième sens, donc, l'enfant, il voit les morts et sa mère, elle ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre prenons le personnage de son ami, au tout début du film, là, qui est un petit gros, on se dit, mais ce gars, c'est pas un espion, quoi. Et quand on découvre qu'il essaie de le tuer, tous les personnages sont beaucoup plus humains, quoi.
Même les petits gros peuvent être espions.
Tout à fait. C'est un message d'espoir. Ah, purée. Donc, y a plus de punchline aussi, des moments un peu plus drôles où Schwarzenegger fait du Schwarzenegger, quoi, on va dire. Il faut dire que le film a été entièrement monté sur son nom à lui, quoi. C'est lui qui a vachement soutenu Paul Verhoeven. Il est plus organique, donc, parce que tous les effets spéciaux, enfin, la plus grosse partie des effets spéciaux sont faits à l'ancienne avec des animatroniques ou avec des maquillages. Et mine de rien, eh bien, le spectateur, il y croit à ça. Alors, c'est pareil, il faudra essayer sur les enfants. Peut-être nous, c'est parce que on a grandi avec ça. Mais alors, moi, vraiment, c'est quel film qu'on a vu récemment qui faisait carton-pâte hein. Bon, là, j'ai pas de souvenirs. Mais moi, vraiment, j'étais bluffé par les effets spéciaux. Quoi. Moi, j'ai trouvé que tout était... même les voitures, là, le côté, ça fait un peu des voitures sur Mars. Là, il faut un peu un côté bricolo. Mais pourquoi pas, quoi, à la limite.
Non, les effets spéciaux sont bien, oui. Ouais. Moi, mon préféré, c'est la femme à trois seins. À moins que... À moins qu'elle ait vraiment eu trois seins.
Ah, c'est possible. Oui, je crois que c'est une actrice qui est extrêmement célèbre aux États-Unis pour ça. Mais qui a joué que ce rôle-là, étonnamment.
Voilà. Ok. Voilà.
Et donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire hein, sur la comparaison entre... Total Recall de Paul Verhoeven et Total Recall de Land with a Man.
Non.
C'est tout.
Oui.
Il me semblait que tu avais bossé et que tu avais
oui,
fait
oui, parce
des...
qu'en fait, non, ce que tu n'as pas dit, c'est pourquoi on avait choisi ce film. Ça, c'est très important et tu devrais le dire au début chaque fois, pourquoi on a choisi ce film. Donc, on a choisi ce film pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il est passé à la télé. Donc, la version avec Colin Farrell est passée à la télé et on a téléchargé l'autre version avec Schwarzy.
C'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire que les gens avaient voté un nombre pour ce film-là. On avait dit
excuse-moi, j'ai zappé.
Alors je couperai tout ça au montage. Et donc oui, on a choisi ce film parce que donc on a reçu donc 495 télégrammes. Alors je sais même pas encore que ça existait télégrammes, tu vois.
Et n'oublie pas le Minitel.
Et 800 fax. Alors là, 800 fax pour nous dire oui, on veut parler de Total Recall, on veut que vous parliez de Total Recall. Oui, les moments où Julie coupe Jérôme, c'est insupportable. Hein. Donc bon, c'est quand même ça qui est assez étonnant. Mais donc on a choisi ce film aussi principalement parce qu'il passait sur C8 ou Énergie 12,
oui,
je
oui,
sais
la
plus.
C8, la C8.
Enfin, la nouvelle version. Hein. Après l'ancienne version, on l'a téléchargée illégalement. On avait acheté le DVD Blu-ray sur la Fnac Bing, bien sûr. Donc qui c'est qui gagne pour toi?
Schwarzenegger.
Bravo Schwarzenegger, grand gagnant. Alors. Voilà.
Du coup, ça me donne envie de faire un cycle Schwarzenegger. Après avoir vu Predator cette semaine, eh ben, voilà, on pourrait regarder, tiens, Un flic à la maternelle.
Alors là, ça nous fait beaucoup de cycles à regarder. Quand même, parce
attends,
que
non,
il
mais,
fallait faire un cycle mythologique.
C'est les vacances,
déjà.
C'est les vacances, GG, avec les enfants. On regardera Un flic à la maternelle, c'est rigolo.
Ah ben oui, ouais. Ouais, c'est pas mon préféré, moi. Hein,
ouais, bon, il n'avait pas que des chefs-d'œuvre, hein, mais bon... Hein.
Surtout que ça peut faire l'objet d'un... Parce qu'il y a un remake, je crois, qui est déguisé, qui existe avec The Rock. Tu sais, celui qui jouait... Oui, flic dans une maternelle aussi.
Ah bon ? C'est quoi The Rock ?
C'est celui qui jouait dans le film avec les singes géants. Avec le singe géant.
Okay. Oui. L'acteur ?
Oui, l'acteur.
Mais c'est quoi son nom ?
C'est The Rock.
Mais non.
C'est un catcheur
ah,
à la base.
Okay.
C'est pour ça. Il a un autre nom, quoi. Mais tout le monde le surnomme The Rock. Quoi.
Okay, okay.
Nous, dans le milieu du catch, on l'appelle The Rock, en tout cas.
Okay.
Et parce que je fais du catch. Hein,
c'est quoi ton nom de scène ?
Lost Pitchus. C'est pas terrible. Donc voilà, qui c'est qui a gagné ? Eh bien, c'est l'ancienne version, comme quoi. Alors, on fera.
Ça fait deux podcasts qu'on fait, deux fois l'ancienne version gagne, Jérôme. Alors, soit on est vieux, soit avant c'était mieux.
Moi j'ai 25 ans. Donc,
ouais,
je vois
c'est
pas pourquoi
ça,
tu
moi 24.
Ça.
C'est ça, ouais.
Je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, mais écoute, on est quand même des experts en cinéma. Il faut dire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
On lit, il faut le savoir, on a fait des études hein, déjà, petite, hein, et on lit Télé 7 jours.
Tout le temps,
les
semaine,
résumés hein. Des films et les critiques de Télé 7 ouais, jours, on les connaît par cœur.
Et donc, on se fie vraiment au nombre de 7 qu'il y a à côté du titre.
Donc, c'est pour vous dire le cas.
Pour faire nos choix.
Donc, voilà. Pour le prochain podcast, donc, n'hésitez pas à nous écrire.
Est-ce que toi, tu as une idée, Jérôme, de prochain podcast ?
Alors, j'ai envie de te dire, ça te donne de voir ce qui passe cette semaine à la télé.
Moi, j'avais proposé Jason et les Argonautes. Tu avais dit que tu regarderais s'il existe un remake.
Il existe un remake.
Ah, alors.
Mais, alors, je sais pas si c'est vraiment, ça va intéresser les gens.
Mais on sent moi que l'essentiel, c'est que ça nous intéresse.
Pour l'instant, j'ai pas réussi à me le procurer. Donc,
Télécharge-le, commande-le sur la Fnac.
Ouais, oui, je vais payer un DVD à 25€ pour voir une bouse. Ça, déjà
le truc, c'est que voilà, tu vois, le problème, c'est que avant de les regarder, de faire le podcast, on sait à l'avance lequel va gagner. C'est ça le truc.
Non, moi tu viens de la dire nouvelle pour version une avait toutes ses chances, hein, cette fois, Total Recall, la nouvelle version. Non, bah, bon, je savais à la base qu'il n'avait pas du tout marché en salle, qu'il avait une critique abominable, là, que tout le monde avait été contre le fait qu'il refasse un remake de ce film. Mais non, je m'étais dit, tu laisses une chance à ce film. Après, j'ai très bien dormi pendant le film, donc je tiens à les remercier de ça. Et bon, le prochain film, donc, vous avez qu'à nous écrire. Hein. Vous connaissez maintenant.
Carte postale.
Voilà, vous connaissez. Je ne rappelle pas parce que c'est passé du temps pour rien à dire des banalités. Vous savez très bien quelle est notre adresse. Vous nous écrivez, vous nous proposez des films. N'hésitez pas. Et voilà, le prochain film sera une surprise. On tirera au sort. Et le gagnant, je crois qu'il gagne une Renault Clio. Hein, celui
tout à fait.
À qui on choisit le film. Donc, eh bien, j'espère que ce podcast qui a duré une heure pile. Écoute,
c'est vrai c'est, ouais, une la heure, dernière fois, on avait fait 40 minutes.
Maintenant, c'est 1h04 et là, 06. ça ne s'arrête pas. C'est incroyable. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Vous le découvrirez la prochaine fois. On se quitte.
Tchuss Milous.
C'était, je pense, le mot de trop.